ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces gens qui font la différence. Aujourd'hui, je reçois Claude Bélan, président du Mouvement des Jardins de 1987 à 2000 et retraité actif et impliqué dans la société depuis ses débuts comme caissier à la Caisse populaire d'Outremont, fondée par son père. Claude Bélan a consacré la plus grande partie de sa carrière au service du corporatisme. Président donc du Mouvement des Jardins de 87 à 2000, il est depuis l'exemple même du retraité actif et engagé dans la société. Claude Bélan a été nommé officier de l'Ordre national du Québec et de l'Ordre des francophones d'Amérique. Et plus récemment, le barreau du Québec lui a décerné le titre d'Advocatus Emeritus, avocat mérite. Il a également reçu les plus hauts honneurs du Conseil de la Corporation et de la Mutualité du Québec, ainsi que du Conseil canadien de la coopération. Nous le recevons pendant une heure, tout de suite après. Très grand plaisir, Claude Bélan, de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vraiment un honneur.
Merci de m'avoir invité, parce que c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce midi.
Un fondateur du Québec, un pionnier qui a travaillé très fort hein, et qui continue à travailler, d'une famille nombreuse, 7 enfants.
Oui. Oui, tout à fait. C'est une famille reconstituée parce que je me suis retrouvé seul à un moment donné avec 3 enfants. Et j'ai trouvé mon épouse d'aujourd'hui il y a 48 ans.
Ah, c'est quelque chose.
Et, qui avait déjà aussi 3 enfants. Mm-hmm. Et on en a fait un. Et alors, ça a fait 7.
Alors, et vous, vous venez d'une famille de... Vous étiez 7.
Oui, oui, tout à fait.
Exactement.
Exactement.
Alors, votre enfance est tout à fait particulière parce qu'on voit très bien que vous avez une maman aimante, mais un papa qui a envie de donner au suivant, qui est extrêmement généreux et qui a ouvert la porte à plusieurs personnes et qui ne pouvaient supporter que les gens n'aient pas ni du lait ni des œufs. Parlez-moi de vos parents.
Oui, tout à fait. Vous savez, on est dans la période que j'appelle la période de la domination des valeurs religieuses au Québec. Moi, je suis né en 1932 jusqu'à 1960. En fait, on était très influencé par les valeurs religieuses. Alors, chez moi, mon père était un commerçant, très engagé dans la société, président de la Caisse populaire. Il s'occupait de l'association des infirmières visiteuses, très engagé. Mm-hmm. Et maman, elle, était d'une santé très fragile. Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec maman à la maison, surtout le soir, quand papa était aux réunions,
ah oui.
Il n'était pas là. Alors, j'ai réalisé dans ma jeunesse que pour qu'une famille soit heureuse, il faut que chacun y apporte un peu de lui-même. Quand on me disait, ben non, Claude, c'est à ton tour de garder maman ce soir, je voulais aller rejoindre mes amis. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je garde maman. Mm-hmm. Et parfois, quand mes sœurs voulaient prendre congé, ils disaient, ben, t'as rien à faire, veux-tu rester? Bon. J'ai compris qu'une famille est heureuse quand on se préoccupe l'un et l'autre du bien-être de chacun. Et je me disais, pourquoi c'est pas comme ça dans la société? Mmh. Et mon père m'expliquait, ben oui, il faut que ça soit comme ça. Et regarde ce que je fais.
Et ah oui, papa était
très
généreux. Il disait ça.
Ouais, ouais.
Regarde ce que je fais. Ouais. Parce que ça ne se terminait pas à la caisse. C'est-à-dire que l'exemple des œufs et du lait, c'est bien arrivé, c'est que...
C'était presque naturel, je dirais.
C'était
normal, oui. Je me souviens, en 1962, c'est tout de même pas l'Antiquité, quand je rencontre les étudiants à l'université, puis je parle des années 60, pour eux, c'est l'Antiquité. Mais pour moi, j'étais à l'âge adulte, tout simplement, et je me souviendrai toujours d'un discours de Joseph Folliet, qui était un philosophe français, qui était venu rencontrer les gens des caisses populaires pour faire un discours sur l'épargne. Et il disait aux gens, vous savez, l'épargne, c'est ce dont on a besoin dans nos familles pour qu'on vive décemment, en toute dignité, puis qu'on réussisse à combler tous nos besoins. L'excédent, c'est le sang du pauvre. Ah. L'excédent, il faut le donner.
Oh, c'est très bien dit,
partager. Ça. Non, mais c'était la règle, mais vous ne me croirez peut-être pas, mais à la fin de la conférence, il avait eu des applaudissements debout. Les gens de Desjardins, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, s'étaient levés pour l'applaudir. Ouais. C'était dans la mentalité des gens. Ouais.
Beaucoup, beaucoup moins individualiste que notre société en 2015.
Je dis souvent la blague aux étudiants. Vous savez, dans mon temps, à la radio, il y avait une émission qui était un homme et son péché. Mmh. Et c'était un avare. Mmh. On donnait l'image d'un avare, de quelqu'un qui avait un amour exagéré de l'argent. Mmh. Et je dis aux étudiants, il faudrait enlever ce mot-là du dictionnaire maintenant. Parce qu'aujourd'hui, l'enrichissement sans limite est glorifié.
Ouais,
vous avez réussi votre vie si vous êtes un milliardaire.
C'est ça. C'est...
Mais je ne sais pas, moi, l'infirmière qui a soigné des gens toute sa vie, le médecin qui a guéri des gens, les gens qui ont fait du bénévolat puis qui ont aidé les autres, ceux-là, ils sont des inconnus.
Et est-ce que c'est pas ça la vraie richesse? Il faudrait se la poser, la question.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Alors, on revient un petit peu sur votre enfance. Quel était votre rapport, justement, avec l'argent à l'époque, là, étant plus jeune, étant donné que votre père vous montre vraiment le chemin à suivre? Vous le voyez, vous commencez à travailler, bon, à la caisse populaire. Mais vous, là, comme adolescent, vous voyez où à ce moment-là?
Ben, c'est-à-dire que... Je comprenais très bien qu'on avait besoin d'argent pour satisfaire certains besoins. Mon père nous donnait une allocation, si je me souviens bien, c'était quelque chose comme 2 $ par semaine. Et nous enseignait en même temps à gérer l'argent. Si je voulais faire quelque chose de plus, puis mon 2 $ était disparu, puis j'allais lui demander un peu d'argent. Il me disait toujours, qu'est-ce que tu as fait avec ton 2 $? Ben, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Uh-huh. Bon, ben, alors attends la semaine prochaine, puis tu combleras ton besoin la semaine prochaine. Si je voulais m'acheter quelque chose, il nous montrait aussi à gérer notre budget, à être, à pas faire des dépenses dès qu'on a des sous, à les dépenser.
Il y avait toujours un pourquoi.
Autrement dit, il fallait que, même dans les caisses, les prêts ne se faisaient que si on considérait que c'était un prêt, on disait à l'époque, productif. Mm-hmm. Alors, si vous veniez à la caisse pour emprunter parce que vous vouliez, moi, je ne sais pas, aller faire un voyage, mais alors que votre famille avait même pas de
pain
et de lait. On disait, non, tu gères mal ton
budget.
Ton budget. Mm. Tu n'y arriveras jamais, là. T'as des choses plus importantes. On faisait peut-être du paternalisme, mais en même temps, c'était de l'éducation à une bonne gestion de ses avoirs.
Et de l'éducation, vous avez été à l'école à Brébeuf.
Oui, à l'école Lajoie, à l'école primaire.
Oui.
Oui, tout près de chez nous. Et ensuite, collège Jean de Brébeuf, oui.
Et
chez les jésuites.
Et comment ça s'est passé, cette
année? Très bien. Oui. Ça, c'est une belle période de ma vie. J'étais ce qu'on appelle demi-pensionnaire, c'est-à-dire qu'on prenait le repas du midi au collège. On arrivait le matin vers 8h20, puis on sortait du collège à 6h20. On avait fait l'étude, les cours, tout. Et je me souviens que moi, j'étais très actif. J'avais été élu président de la République des As.
Ah bon? Qu'est-ce que c'était, un président de la République des As?
C'est qu'il y a un professeur, le père Dubé, qui était responsable des périodes de récréation, qui avait transformé la récréation en une république. Donc, il y avait un président... Il y avait un ministre de la balle, un ministre du badminton, un ministre de la course. Tous les sports méritaient un ministre. Moi, j'avais été élu président.
Une assemblée nationale dans la cour, quoi.
Tout à fait. Ouais. Et il nous appelait la République des As.
C'est beau.
Oui, c'était.
C'est très, très beau.
Oui,
ça.
Ben ça développait un sentiment d'appartenance. Intéressant. Le décrochage scolaire, on ne connaissait pas ça. Tellement que je me souviens qu'un soir, j'avais dit à mon père, j'aimerais ça être pensionnaire. Parce que je me lève tôt, j'arrive au collège tôt, parce que moi, je faisais un journal pour les étudiants. Puis il fallait que je le fasse avant les cours. Puis après, l'étude finissait à 6h20. J'arrivais à la maison à 7 heures. Ce qui me restait, c'est manger, me coucher, puis retourner. Je disais à papa, j'aimerais ça être pensionnaire.
Sur place.
Mon père, un peu vexé, dit, comment, t'es pas bien ici? Si vous voulez.
Vous aviez déjà l'économie des heures et du temps. Non, la bosse des chiffres.
Ça démontre que déjà, comment je dirais, le collège m'intéressait tellement. C'est pas que j'aimais pas la famille, pas au contraire, mais j'essayais d'être pratique et d'être capable de tout faire ce que je voulais faire.
Alors, on écoute les chansons que vous choisissez. Vous devez nous dire pourquoi. Les gens de mon pays, Gilles Vigneault.
Parce que c'est tellement beau. Les gens de mon pays, ce n'est pas... ils nous racontent tellement bien. C'est bien, nous, les Québécois, de se faire rappeler d'où on vient et où on peut aller.
On l'écoute.
Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin, de ce nez je désire, oh, vous vous entêtez à jeter vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom, vos voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes et de chaque côté des cléons, des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison, votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doutant. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Voix noire, voix durcie, d'écorce et de cordage, voix des pays plein champs et voix des amoureux, douces voix attendries. les amours du village. Vois les beaux airs anciens dont on s'ennuie en ville. Puis ailleurs, ils décollent des palabres et sparages. Magasin général et restaurant du coin. Les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle ou vous qui m'appelez? Langage de mon père et patois 17e. Vous me faites voyage, mal et mélancolie. Vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende. Il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver douce comme rivière, je vous entends claquer comme voile du large, je vous entends gronder comme chute en montagne, je vous entends rouler comme Paris de poudre, je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends cogner comme un mer en falaise, je vous entends passer comme un glace en débâcle, je vous entends demain parler de liberté.
Claude Bellan, je voyais dans vos yeux une émotion en écoutant cette chanson.
Oui.
Elle vous parle vraiment.
Oui, vraiment, parce que je me reconnais dans cette chanson-là. Mm-hmm. Et aussi, je pense quand on écoute une chanson, on pense à l'interprète, à celui qui la chante. Mm-hmm. Et ça aide, parce que je trouve que Gilles Vigneault est un Québécois convaincu, généreux de son temps. Souvent bénévole aussi. Et quand on met tout ça ensemble, ça nous fait passer de bons moments.
De bons moments. Alors, de rédacteur en chef du Quartier Latin, vous faites ça pendant vos études. Ensuite, il y a l'avocat. Hein? Vous
oui,
décidez de vous lancer en droit.
Tout à fait.
Pourquoi?
C'est que quand on était au Collège Brébeuf, à la dernière année, il y avait ce qu'on appelait une retraite fermée. On allait dans une maison de jésuites. Chacun avait sa chambre. On avait 3 jours pour réfléchir. Puis on nous informait sur les différentes professions qui s'offraient à nous. Et on avait des questionnaires à répondre. Et moi, finalement, quand j'ai fini mon questionnaire, ça concluait que je deviendrai jésuite. Alors, le jeune jésuite qui a regardé mon dossier, il m'a dit bien gentiment, oui, je comprends, mais si tu avais un second choix.
Ah, c'est intéressant qu'il vous l'a proposé.
Oui, que ferais-tu? Oh, j'ai dit, moi, j'aimerais être avocat. Il dit, pourquoi? Ah, parce que moi, j'avais un ami dont le père était juge à la cour municipale. C'est une cour où on règle les petites chicanes de entre mari et femme, les chicanes de clôture, les problèmes entre voisins. Alors, puis je disais, je trouve ça bien parce que le juge, il concilie les gens. Il fait en sorte, sans trop les punir, sans leur nuire surtout, il contribue à les replacer sur les rails d'une vie plus agréable. Et j'ai aimé ça. Il m'a dit, ben moi j'y penserai beaucoup à cette profession-là si tu la choisis pour les raisons que tu me donnes. Et à bien y penser, finalement, je me suis dit, ben je pensais tellement que le père jésuite m'aurait félicité parce que je choisissais la même profession que lui. Mais non, quand j'ai vu son objectivité, j'ai choisi le droit. Je peux dire que j'ai aimé la pratique du droit, sauf que pas très longtemps, 2-3 ans après avoir commencé ma pratique, je trouvais que je contribuais pas à bâtir quelque chose. Je réglais des conflits.
Mais il vous manquait quelque chose.
Pas toujours à ma satisfaction, parce que c'est le juge qui décide, finalement. Mm-hmm. Parfois, on fait des arbitrages. Mais j'aurais aimé mieux contribuer à bâtir quelque chose. Et le destin a bien fait les choses.
Mais oui.
J'ai eu la visite un jour d'un groupe de professionnels, les pompiers de Montréal, qui voulaient créer une caisse populaire. Mais alors, je leur dis, une caisse populaire, ça se fait dans les paroisses. Non, mais nous, c'est le groupe, on est des syndiqués, et on vient de faire une grève. Ça nous a donné quelques sous de plus de l'heure. Mais on vient de penser que si on mettait tous nos salaires à la disposition d'autres pompiers, mm-hmm. si on s'entraidait mm-hmm. avec nos salaires, mm-hmm. on pourrait faire encore beaucoup mieux. Et on voudrait créer une coopérative d'épargne avec... j'ai dit, allez voir le président des caisses populaires, c'est ce qu'ils ont fait. Mais aux caisses populaires, on les a refusés en disant, non, non, nous, on est des caisses dans les paroisses. Et je me souviens de ce que les gens s'étaient fait dire en disant, écoutez, c'est franc-maçon, ça, c'est
ah
pas...
Ah oui, les gens sont allés jusqu'à là?
Oui, de dire... Que ce soit des travailleurs uh-huh. qui se réunissent pour se donner une force financière, c'est franc-maçon. Allez dans vos paroisses, vous êtes des catholiques, vous êtes des chrétiens, allez dans vos paroisses, puis devenez membre des caisses populaires. Alors, les professionnels, puis parce que les policiers voulaient faire la même chose.
Tous les corps de métier, finalement,
on a créé, ouais. finalement, une nouvelle forme de coopérative d'épargne et crédit qu'on appelait des coopératives de groupe.
Ouais.
Des gens qui voulaient que le lien d'appartenance, le lien commun entre les épargnants soit des gens qui pratiquent la même profession ou les employés d'une même entreprise. On s'est donné le nom de caisse d'économie.
C'est ça. Mais alors, vous partez en 71 parce que vous êtes avocat en pratique privée. Et là, il y a cette offre. En fin de compte, les choses sont très belles dans
c'est
la
ça.
Vie.
Hein. Et là, je suis devenu conseiller juridique de
oui,
la Fédération des caisses d'économie. Et là, on avait vraiment l'impression de bâtir quelque chose.
Et le côté humaniste, parce que j'ai lu quelques articles où vous avez dit, et ça m'a beaucoup touché, vous avez dit, moi, ce que je voudrais qu'on retienne de moi... C'est pas que j'étais un économiste, là.
Non, pas
c'est
du tout.
C'est que j'étais
moi,
un humaniste,
oui,
avant
ça.
Tout.
Oui.
Donc, l'humain avant les chiffres.
Ben, c'est
l'humain,
clair. C'est ouais. clair. Écoutez, j'ai écrit quatre livres sur l'élément central du développement d'une société. Ça devrait être l'individu. Aujourd'hui, malheureusement, on a eu un basculement du monde dans les années 80 qui a été, à mon point de vue, très dommageable. Aujourd'hui, l'élément central du développement, c'est le capital. Tout est évalué en fonction du capital. Si vous êtes riche, vous avez réussi votre vie. Vous n'êtes pas évalué sur vos valeurs humaines. Il n'y a pas de société possible. Écoutez... Je dis souvent à mes étudiants, prenez la peine de lire les grandes chartes des droits de l'homme. Prenez la peine oui. d'écrire ça. Ce sont des engagements que tous les pays de l'ONU ont signés en 1948, après la fameuse Deuxième Grande Guerre mondiale, où 50 millions de personnes sont mortes. On a créé l'Organisation des Nations Unies. On a écrit une charte, une Déclaration universelle des droits
des
de l'homme,
oui.
dans laquelle on parle d'une liberté, mais d'une liberté qui ne nuit pas à la liberté des autres, l'égalité des chances, l'égalité des droits,
oui.
la fraternité, la solidarité, la dignité, le droit à la dignité, le droit au travail... On voit bien dans ça que l'élément central du développement, c'est la satisfaction des besoins humains, mais des humains qui apprennent à vivre ensemble.
Et c'est ce que vous avez fait au sein de... En prenant la présidente du Mouvement des Jardins en 87. Et là, vous avez créé vraiment un empire en plus.
C'est-à-dire
qu'il y avait des caisses partout, mais où l'humain...
Oui,
était
oui.
le plus important.
Oui,
et surtout, la différence entre une banque, c'est que les profits sont redistribués, finalement.
Oui. Mais vous savez, le profit ou la finance, c'est un moyen, c'est pas une fin. Quelle est la fin? Pourquoi on fait tout ça? C'est parce qu'on veut que les gens vivent convenablement. C'est ça, le but. Et notre fierté chez Desjardins, ça a toujours été de desservir tout le monde, les riches, les moyens, les pauvres, surtout les pauvres, on avait toujours le moyen de servir les gens. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le système bancaire, si vous êtes petit épargnant, ben, s'il y a des coûts pour avoir un compte d'épargne.
Une injustice totale là-dedans. Oui.
Et si vous voulez emprunter jusqu'à 10 000 $, on va vous dire, prends une carte de crédit et le taux d'intérêt, c'est 19 %. Mais si vous êtes riche, vous avez droit à vos taux préférentiels. Et vous... Alors, le système est fait, en somme, pour les riches.
Alors, on va écouter votre prochain choix musical, Raymond Lévesque, « Quand les hommes vivront d'amour ». On est vraiment dans le ton. On est... juste me dire pourquoi.
Tout à fait.
Alors, on l'écoute.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix.
Ces gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Nous sommes en direct avec Claude Bellan, ancien président du Mouvement des Jardins de 1987 à 2000, et retraité actif et impliqué dans la société. Justement, on parlait des débuts, finalement, de la Caisse populaire des Jardins. Le coopératif et l'économie sociale, ça, c'est vraiment ce que vous vouliez et ce que vous voulez des caisses populaires.
Et qui heureusement, progresse actuellement, tranquillement.
Oui.
Mais je pense que l'économie sociale, ça vient confirmer que l'élément central de tout système économique devrait porter vers l'être humain, vers l'individu. Mmh. Et ça, c'est le vrai projet de société qui m'a guidé pendant toute ma carrière.
Alors, vous privilégiez dans ce coopératisme les 4 P, on va les donner, membres propriétaires, participation, partage et patrimoine.
Oui, c'est ça. C'est ce qui fait la différence avec le système libéral, le système capitaliste.
Oui.
Je vais vulgariser ça, là. Si vous êtes un client de la banque, bien, vous n'êtes pas propriétaire de la banque.
Mm-hmm.
Si vous êtes un usager ou un client de la coopérative, il faut en même temps que vous soyez propriétaire. C'est la notion de propriétaire-usager. Bon, Deuxièmement, la participation. Ben, si vous êtes propriétaire d'une coopérative, vous avez le droit de participer aux décisions.
Oui.
Aux assemblées générales des membres, vous êtes
voter.
Invité. Si vous êtes client d'une banque, vous n'êtes pas invité. Mmh. Les propriétaires sont les investisseurs, sont ceux qui ont des actions. Donc, dans le cas des coopératives, c'est une personne, un vote. Dans le cas des banques, c'est une pièce, un vote. Mmh. Si vous avez 1 million, ben vous avez 1 million de votes. Mm-hmm. Si vous avez 100 000 piastres, ben vous avez 100 000 votes. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que si vous détenez 50 % des actions, vous êtes le vrai propriétaire.
Oui.
Parce que vous, chaque décision, c'est la vôtre. Hein? Alors, autrement dit, la coopérative, c'est sous contrôle démocratique. Le partage, ben comme il n'y a pas d'action, le partage... Dans les coopératives, ça se fait sous forme de ristourne.
Oui.
On appelle ça les trop perçus. On s'aperçoit qu'on vous a trop demandé pour vos emprunts parce qu'on a fait des sous en profit.
Et les trop perçus sont redistribués aux clients, aux
membres. En proportion des activités qu'ils ont faites. Mm-hmm. Pas parce qu'ils sont riches ou parce qu'ils sont pauvres. En fonction des... Vous avez emprunté 10 000 $, on vous a chargé 8 %. Bien, on aurait dû vous charger 7. Alors, on vous remet 1 %. Bon, ça, c'est le partage. Donc, il y a une grosse différence. Et le patrimoine, c'est qu'une coopérative, ce n'est pas vendable. C'est inaliénable. On ne peut pas vendre une coopérative. On peut la liquider. Mais tandis que si vous êtes dans le système capitaliste, eh, mon Dieu, vous avez juste à acheter 50 % des actions et elle vous appartient. Donc, c'est très volatile. Donc, une coopérative, ça fait partie du patrimoine social.
Social, tout à fait.
Ouais.
Alors, il y a des coopératives funéraires aussi.
Oui, des coopératives de consommation, des coopératives même radiophoniques. Il y a des postes de radio qui sont des coopératives. Il y a des coopératives de travail de plus en plus. Des coopératives de santé, ce sont des gens qui s'unissent pour assurer les soins de santé des gens d'un village, mm-hmm. par exemple. Et... Alors, c'est la démocratisation, en somme, de l'économie.
De l'économie. Toujours placer l'humain, hein, ça, c'est tout à fait votre philosophie, la genèse de ce que vous avez fait dans votre vie. Dernièrement, vous êtes sorti parce que... Enfin, je ne veux pas déformer vos propos, mais vous étiez un petit peu inquiet de la tournure d'un peu des caisses populaires. Est-ce que cette inquiétude est toujours là?
Oui. C'est que d'abord, je dois vous dire que jusqu'à l'an 2005, les administrateurs de chacune des caisses, au total, nous étions environ 15 000 dirigeants bénévoles. Et en 2005, le conseil d'administration a recommandé ou a suggéré que désormais les administrateurs seraient rémunérés. Mmh. Évidemment, on ne voulait pas rémunérer 15 000 personnes. Alors, on a réduit beaucoup le nombre de caisses en les fusionnant. Aujourd'hui, on doit compter sur à peu près... au maximum 400 caisses. Hein? On en a eu jusqu'à 1330. Mm-hmm. On a déjà eu jusqu'à 18 000 dirigeants bénévoles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Alors, quand vous êtes capable de bâtir une institution comme Desjardins, grâce en grande partie aux bénévolats, si vous vous en privez, les gens qui sont intéressés à venir siéger sur les conseils d'administration, c'est pas les gens qui ont la même vision qu'un bénévole. Le bénévole, il est là pour rendre strictement service.
Ouais. Donc, le côté social n'est plus là, autrement dit.
Tout à fait, tout à fait.
Okay.
Et à ce moment-là, ces administrateurs-là, ils sont très crédibles parce que si moi, je suis dans une paroisse et que je sais que mon ami est administrateur de la caisse, je sais qu'il n'est pas là pour le salaire qu'il reçoit. Il est là parce qu'il veut rendre service à la collectivité.
Ouais.
Et ça donne une...
Alors ça, c'est la sonnette d'alarme.
Tout à fait.
Et là, on a entendu...
Je vous donne un élément.
Oui.
Mais quand vous arrivez à cette pensée, il ne faut pas oublier tous les effets de la mondialisation, de l'internationalisation de la finance. Mm-hmm. Vous êtes soumis maintenant à des règles internationales dans le monde de la finance qui sont universelles. Alors, on ne vous demande pas si vous êtes une coopérative ou pas. On dit, est-ce que vous recevez de l'épargne des gens? Est-ce que vous êtes responsable de l'épargne des gens? Alors là, il y a des normes très sévères qui sont des normes beaucoup plus d'inspiration capitaliste que d'inspiration humaine. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que le changement secoue un peu, surtout dans le domaine de la finance, pas dans les autres coopératives. Les coopératives de santé, les coopératives d'habitation sont encore très purement des coopératives. Dans le domaine de la finance, à cause des normes internationales, évidemment, il y a une tendance à être obligé de donner priorité au rendement, parce que c'est par ça que vous êtes évalué.
Au capital.
Par les marchés internationaux. Mm-hmm. Par les fameuses agences de notation qui vous donnent une note, mais qui vous donnent une note si votre capitalisation est très forte, si vous avez fait des gros profits, sinon vous êtes classé comme étant pas une institution financière très performante. Ce qui veut dire que, universellement, être performant quand on joue avec l'argent, c'est d'en produire beaucoup de richesses, peu importe comment on la partage, ça c'est pas important. On regarde comment l'institution en produit, et si elle en produit beaucoup, donc c'est une bonne institution financière.
Et puis on peut mettre de côté l'éthique aussi.
Oui, tout à fait.
L'éthique peut s'en aller là, très rapidement avec une façon de fonctionner.
Tout à fait.
De
on le voit dans les politiques de rémunération. Vous savez, madame, quand j'ai été président pendant quelque temps du MEDAC, là, du Mouvement de protection des actionnaires, on découvrait que des présidents de banque gagnaient jusqu'à 175 fois le salaire de la moyenne de leurs employés. C'est un non-sens. C'est antisocial. Qui mérite 175 fois le travail qu'on rémunère? Parce que le président de la banque, c'est pas lui qui fait tous ces succès-là seul, là. Il faut être joliment orgueilleux hein, pour penser qu'on vaut 175 fois plus que l'ensemble de mes employés. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça.
C'est très bon de vous entendre là-dessus, M. Bellan. Aussi, au niveau des fermetures, vous êtes partout. Hein, il faut dire ça qu'en Haïti, vous avez vraiment donné plus et vous continuez de donner un coup de main. Ça, c'est tout à fait dans la philosophie du mouvement des jardins des caisses populaires. Partout au Québec, là, mauvaise nouvelle, on décide d'enfermer dans les régions. Qu'est-ce que ça vous fait, Claude Bellan, quand vous entendez que les régions ne seront plus desservies?
Bien, je pense que ça confirme ce que je viens de vous dire, que la préoccupation maintenant, ce n'est pas le service à tous les Québécois et les Québécoises comme ce l'était anciennement. Anciennement, on avait des caisses dans toutes les régions, dans toutes les paroisses, puis notre fierté était justement d'être capable de réussir ça, et ce l'était grâce aux bénévolats. Mais à compter du moment où vous privez du bénévolat et que les gens sont préoccupés par le rendement, par le profit, eh bien, c'est bien évident que si dans une région, ça coûte un peu de sous, un peu plus cher pour donner le service aux gens parce qu'ils sont très éloignés, si on dit, ben là, c'est pas payant, donc je ne les sers plus, je pense que c'est pas le progrès.
On fait fausse route.
Oui, c'est...
Je voulais vous parler de la démocratie éthique. Oui. La démocratie aussi. C'est quand vous donnez des cours et aussi vous en avez parlé, vous faites des conférences et ça revient tout le temps.
Oui.
La démocratie pour vous,
Que la démocratie, vous savez, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de littérature sur le sujet. Démocratie, ça veut dire démos, le peuple, crécie, le pouvoir au peuple. Bon. Ce système où le peuple déciderait de tout, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, même en France, quand il y a eu la Révolution française. Non, les nobles n'ont jamais voulu. On craignait, on avait l'agoraphobie. On disait, si c'est les pauvres maintenant qui vont décider, ils sont majoritaires, On craint la tyrannie des pauvres, ça n'a pas de sens. Et on a inventé un système qu'on disait, écoutez, vous n'êtes pas capable de faire ça, là. Vous n'êtes pas capable de gérer un pays. Vous allez avoir le droit de choisir vos représentants. Un petit groupe. Et c'est le petit groupe qui va finalement décider. Et on a inventé la démocratie représentative, qui est la démocratie qui vit aujourd'hui, avec un mode de scrutin qui est boiteux, qui fait en sorte que pas tous les votes comptent, etc., etc. Et pas étonnant qu'à ce moment-là, on récolte l'absentéisme électoral. Les gens disent « qu'est-ce que ça me donne d'aller voter ?» De toute façon, ça ne change rien. Les gens ne croient pas, ils considèrent que c'est un leurre quand on leur dit la phrase de Lincoln, « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Quand j'ai présidé les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques, je disais ça devant des salles de 150 personnes et souvent les gens riaient dans la salle.
Ah bon?
Ah oui. Comme, oui, quelqu'un m'avait dit,
M. Bellan. Comme si c'était farfelu.
Oui, il me disait, M. Bellan, je savais pas que vous étiez un humoriste. Oui.
C'est incroyable,
gens,
ça.
Le cynisme, il est quand même élevé. Hein?
Oui, alors il y a du travail d'éducation à faire. Hein?
Tout à fait. Ouais. Mais pourquoi le citoyen dit ça? Parce qu'il a l'impression que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas lui qui a le pouvoir et que même son vote ne compte pas. Regardez dans les campagnes électorales la somme des promesses qui sont faites. Mais comme disait Félix Leiter dans sa chanson, Félix disait, pendant l'élection... Ils se souviennent mon nom, mais après
ils ne s'en souviennent plus. Alors, on a plusieurs dossiers avec vous. Je vous garderai pendant des heures. Vieillissement actif, vous êtes la preuve. Vous êtes président du conseil d'administration de la Fondation Lionel Groulx depuis 14 ans. Président du conseil d'administration du conseil d'éthique et de l'industrie des boissons alcooliques. Président du conseil d'administration des réseaux des écoles entrepreneuriales. Professeur associé, conférencier, consultant. Donc, vous êtes la preuve que il y a une vie après les caisses populaires, il y a une vie, une fois qu'on a dit bye-bye, en 2000, vous continuez à être vraiment occupé.
J'ai pas eu à dire bye-bye parce que les gens se sont occupés de moi dès les premiers jours de ma retraite et depuis, ils me tiennent occupé et j'apprécie ça. Quand on est reconnu puis qu'on peut encore être utile, c'est merveilleux pour un homme de mon âge, vous savez.
Oui. Et le mentorat, pour vous, c'est très important, mais ce que je retiens aussi de l'après-caisse du Mouvement Desjardins, c'est que vous avez voulu dire aux jeunes, accrochez-vous, ne décrochez pas.
Tout à fait.
Vous avez voulu leur donner la main parce que ça vous a parlé, ça vous a même choqué de voir autant de jeunes qui décrochaient au niveau de l'école.
Oui, tout à fait. Parce qu'ils ne le réalisent pas, mais quand on est jeune, il faut préparer sa vie. Vous savez que j'ai fait souvent des conférences sur... l'entreprise, le verbe entreprendre. Quand on dit aux gens « Ah, c'est un entrepreneur », on pense à quelqu'un qui s'est lancé en affaires. Mais moi, je disais aux jeunes, avant ça, il faut entreprendre sa vie. Mm. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Mm-hmm. Alors, quand vous décrochez, est-ce que vous décidez que vous voulez rien faire, rien connaître L'important, c'est la première entreprise, c'est entreprendre sa vie. Décider qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Être utile aux autres ou vous enrichir vous-même, je ne sais pas. Mais prenez une décision puis agissez en conséquence. Si vous ne faites rien, vous allez vous réveiller à 40 ans, à 50 ans, devant absolument rien et vous allez devenir un bénéficiaire de l'État, ce qui n'est pas très, très, très encourageant comme projet de... projet de vie.
Et qu'est-ce que vous leur dites, justement, vous devez parler aux petits-enfants, aux jeunes qui sont allés à l'école et qui n'ont pas eu la chance d'avoir la lumière que vous avez eue, parce que vous nous l'avez dit dans l'émission, je voulais être pensionnaire pour rester, vous étiez président, vous écriviez, vous aviez cette étincelle, l'envie de savoir et de donner votre savoir. Qu'est-ce que vous leur dites pour se dire, décroche pas de l'école?
Moi, je pense qu'il y a... faut que je ne serais pas capable de vivre dans une vie qui est inutile. Je serais pas capable de vivre sachant que tout ce que j'attends, c'est que la mort m'emporte. Faut être utile, rendre service aux autres, c'est l'ABC du bonheur, ça. Je vois pas en quoi l'égoïsme ou l'individualisme à outrance, c'est satisfaisant, à moins d'être très orgueilleux puis dire « Moi, j'ai gagné ma vie, j'ai exploité les autres, j'ai été plus fin que les autres, j'ai su comment m'enrichir, aujourd'hui, je domine. Je suis très riche, je domine, c'est moi qui mène. » Ben, ça, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. J'aime mieux que les gens me disent merci en disant « Ben, tu m'as aidé. Regarde, aujourd'hui, j'ai lancé une entreprise, puis etc., etc. » Je pense qu'il y a une grande satisfaction à être utile aux autres.
Votre femme vous a acheté un GPS et c'est très beau. Elle a dit « ça me ramènera à toi ». Parlez-moi un petit peu de votre amour, comment vous avez réussi pendant toutes ces années et comme être actif de conserver justement cette flamme.
Ah, ben parce que d'abord j'ai une femme que j'aime beaucoup, on partage tout, c'est ma meilleure conseillère. Elle est la seule qui peut me dire la vérité, hein? Surtout quand vous êtes président. C'est rare que les gens vont oser vous dire « Ce soir, monsieur, mais là, votre conférence, c'était pas fameux. » Jamais j'entendais ça. Ma femme peut me le dire. Et ça, c'est très précieux. J'ai eu beaucoup de conseils de sa part. On a vécu nos vies ensemble. Ça, c'est certain. Ça fait partie du bonheur, s'il fallait que... Non, c'est pas passable.
Vous savez, Claude Bellan a été approché plusieurs fois par le politique, tenter. On sent très bien dans votre vie que vous avez un amour fou pour le Québec.
Oui, ben fou, j'espère qu'il n'est pas fou. J'espère qu'il est...
Non, mais dans le bon sens. Démesuré, le grand.
Ben, oui, ben c'est parce que l'histoire du Québec est une belle histoire. Nos ancêtres qui étaient quand même les premiers qui ont occupé le territoire, c'était des colons français. Hein? C'était mais ils sont demeurés ici assez longtemps pour décider qu'ils n'étaient plus français, ils étaient de nationalité canadienne-française, disait-il à l'époque. Alors, ils ont été créateurs d'une nation. À quel prix, hein? Avec la persévérance, la fidélité, l'amour de leur pays. Et moi, j'ai hérité de ça. Je pense que les Québécois ont hérité de ça. Et le danger, c'est qu'on dirait qu'on s'acharne à faire disparaître cette fibre qui est notre origine. Et quand il y a des gens qui veulent s'unir à nous, il y a beaucoup d'immigrants qui nous arrivent, puis on est très contents, mais on veut leur raconter notre histoire, oui. Puis s'ils veulent partager ça avec nous, on va respecter la leur, mais s'ils veulent partager ça avec nous, c'est un grand bonheur. Mais il ne faut pas travailler à la faire disparaître en disant « ça, c'est fini, c'était une aventure ». Je pense que ça mérite plus que ça.
J'aimerais vous entendre sur la disparition d'un grand, Parizeau, Jacques Parizeau.
Oui, c'est un grand moment. Je suis très heureux de voir la réaction spontanée, pas commanditée, pas financée, la réaction populaire. Spontané que ça a provoqué, j'ai rarement vu un hommage aussi profond, même ses adversaires. Hein. Quand j'ai vu le premier ministre dire « on va nommer l'édifice de la Caisse de dépôt au nom de M. Parizeau », je lève mon chapeau, M. Couillard a fait un geste là du genre de politiciens qu'on aimerait avoir, qui sont capables quand même de reconnaître les mérites de chacun. On peut respecter les idées des autres. Il l'a très bien dit. Il dit « Je n'étais pas toujours d'accord avec M. Parizeau, mais c'était un bâtisseur du Québec. » Et c'est ça qui est important.
Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de Claude Bellan?
Oh mon Dieu! On verra. Moi, j'ai pas d'espoir particulier. J'espère que les gens sauront que j'ai fait la vie que je voulais faire.
Merci. On revient avec le jeu questionnaire.
Claude Bellan, on est déjà arrivé à la fin de l'émission avec donc le jeu questionnaire. Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Ah, manifestement, mes parents, mon père en particulier. Ça, c'est certain. Maman aussi, par son courage. J'ai été influencé par quelqu'un que j'ai jamais rencontré, mais dont j'ai lu beaucoup les écrits, Alphonse Desjardins. Ça a orienté ma carrière, ça a orienté mon discours, et je le cite encore.
Et ça a changé votre vie.
Abondamment.
Ça a changé votre vie, alors.
Ça a changé ma vie, ouais. Tout à fait. J'ai le père Blondin-Dubé au collège Brébeuf, celui qui avait créé la République des Arts.
Oui, c'est ça.
Il a été pour moi un mentor.
Donc c'est ça. Donc on est rendu dans vos mentors. Donc père...
Père Blondin-Dubé qui a été quand même très important dans ma vie, oui.
Donc on peut le mettre. Les livres que vous nous recommandez?
Les livres? Oh mon Dieu, moi je ne suis pas... Si vous parlez de romans, je ne suis pas...
Tous les livres, ça peut être...
Voilà, les livres de Joseph Stiglitz sur le triomphe de la cupidité, le prix des inégalités, il faut lire ça, il faut lire ça. C'est le plus grand économiste que j'ai connu durant toute ma carrière, l'ancien président de la Banque mondiale, le vice-président de la Banque mondiale. Il faut lire ça.
Alors, à lire absolument. Les artistes que vous aimez?
Ah, ben, Gilles Vigneault, les artistes québécois surtout, mais j'aime beaucoup Dutheil aussi. C'est des gens que j'aime, mais je dirais que mon préféré, c'est Gilles Vigneault, Félix Leclerc. Quand je suis bien fatigué, je me mets un disque de Félix Leclerc, puis ça me repose.
Ça vous repose? Est-ce que ça vous remonte le moral?
Oui. Il y a de l'espoir.
Les villes que vous nous recommandez, que vous aimez?
Ah, ben, Paris. Paris. Moi, j'aime beaucoup Prague. J'aime beaucoup Prague. La ville de Québec. La ville de Québec, j'ai toujours l'impression d'être en Europe. Ce serait ça.
Ce serait ça. Merci infiniment d'avoir passé cette heure avec nous.
C'était un grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité.
Merci. Merci à mon équipe, à la réalisation de l'émission Mathieu Tessier, à la recherche Christiane Campagnard aux médias sociaux, Kevin Breton, c'est Sophie Stanquet qui vous parle. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Prenez soin de vous. Bye bye.